Frères et sœurs, les amis, ce mystère de la fête de l'Ascension que nous allons commémorer en ce jeudi veut nous rappeler non pas un voyage interplanétaire de la personne du Christ, ni même un ascenseur qui le placerait à la droite du Père pour qu'il revienne un jour, mais un mystère beaucoup plus fort et beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. Nous avons entendu et nous pourrons nous poser cette première question. Nous avons entendu dans les Actes des Apôtres, mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est avec ces mots, en définitive, que Jésus prend congé des apôtres. Et immédiatement après, l'auteur sacré ajoute qu'ils le virent s'élever et disparaître dans une nuée. C'est le mystère de l'Ascension que nous célébrons donc aujourd'hui solennellement. Alors cette première question que nous pouvons nous poser, qu'est-ce que la Bible et la liturgie désirent nous dire en disant que Jésus s'élève aux cieux et que les disciples virent le Seigneur s'élever? Alors, il faut bien comprendre que l'utilisation dans l'Écriture sainte du verbe élever, c'est pas comme élever un poids ou quelque chose de ce genre, c'est se référer à l'instauration de la royauté. Du reste, on dit une personne, elle a été élevée à la dignité de prince, de roi, etc. Et dans ce sens-là qu'il faut comprendre. Donc ça veut dire que le terme élevé est lié directement à l'instauration de la royauté du Christ, et donc que l'ascension signifie en premier lieu le Fils de l'homme, à savoir la personne du Christ, est établi, placé dans la royauté de Dieu sur le monde. Voyez comme chaque fois un terme tout à fait banal, ce verbe élever, a une signification très précise dans la Bible. Mais il existe un sens plus profond encore, peut-être pas perceptible tout de suite. Dans la page des Actes des Apôtres, il est dit que Jésus fut élevé et il est ensuite ajouté qu'il a été assumé. Donc l'événement est décrit non pas comme un voyage vers le haut, mais comme une action de la puissance de Dieu qui introduit Jésus dans l'espace de la proximité divine. Et nous en avons, j'allais dire, pour preuve la présence de la nuée qui le fit disparaître à leurs yeux, nous dit le texte. Et cela rappelle une très ancienne image de la théologie de l'Ancien Testament et inscrit le récit de l'ascension dans l'histoire de Dieu, dans la continuité de l'histoire de Dieu avec Israël. De la nuée du Sinaï et au-dessus de la tente de l'Alliance du désert jusqu'à la nuée lumineuse sur le mont de la Transfiguration, texte que nous avons entendu il n'y a pas si longtemps que ça. Présentez le Seigneur enveloppé dans la nuée évoque donc, en définitive, le même mystère exprimé par le symbolisme de s'asseoir à la droite de Dieu. J'allais dire tout simplement. Dans le Christ élevé au ciel, l'être humain est entré de manière nouvelle, inouïe peut-être, dans l'intimité de Dieu. L'homme trouve désormais pour toujours place en Dieu. Et le ciel, ce terme, ce mot « ciel » n'indique pas un lieu qui se trouverait au-dessus de notre tête. Certainement pas, ni même au-dessus des étoiles, mais quelque chose de beaucoup plus fort et sublime. Il indique tout simplement le Christ lui-même, la personne divine qui accueille pleinement et pour toujours l'humanité. Celui en qui Dieu et l'homme sont pour toujours inséparablement unis. L'être de l'homme en Dieu, c'est ça le ciel, tel est le ciel. Et nous nous approchons du ciel, ou mieux, nous entrons au ciel dans la mesure où nous nous approchons du Christ Jésus et entrons en communion avec lui. Et donc aujourd'hui, la solennité de l'Ascension nous invite à une communion profonde avec Jésus mort et ressuscité, présent de manière invisible dans la vie de chacun de nous. Alors, dans cette perspective, les amis, nous comprenons pourquoi l'évangéliste Luc affirme qu'après l'Ascension, les disciples revinrent à Jérusalem remplis de joie. Il y a là une sorte de paradoxe. C'est-à-dire leur meilleur ami, avec lequel ils ont vécu des choses très intimes, les quitte, s'en va. Ils ne sont pas dans la tristesse, ils sont remplis de joie, nous dit le texte. Alors posons-nous la question, quelle est la cause de cette joie? Eh bien, la cause de leur joie se trouve dans le fait que ce qui avait eu lieu n'avait pas été en réalité un détachement, une absence permanente du Seigneur. Ils avaient même au contraire désormais la certitude que le Christ crucifié, ressuscité, était vivant et qu'en lui les portes de Dieu, les portes de la vie éternelle avaient été pour toujours ouvertes à l'humanité. Dit d'une autre manière, l'ascension de Jésus ne signifiait pas son absence temporaire du monde, mais au contraire inaugurait une forme nouvelle, définitive et inextinguible de sa présence en vertu de sa participation à la puissance royale de Dieu, comme nous l'avons dit d'une autre manière précédemment. Eh bien, c'est précisément à eux, aux disciples, enhardis, regonflés, on pourrait dire de manière vulgaire, par la puissance de l'Esprit-Saint, qu'il reviendra d'en rendre perceptible la présence à travers les témoignages, la prédication, l'engagement missionnaire. Et donc, la solennité de l'ascension du Seigneur devrait nous combler, nous aussi, sinon de joie, tout au moins de sérénité et d'enthousiasme, comme cela fut le cas pour les apôtres, qui du mont des Oliviers repartirent pleins de joie. Alors, comme eux, nous aussi, en accueillant l'invitation des deux hommes vêtus de blanc dont nous parle le texte, nous ne devons pas rester la bouche ouverte à regarder le ciel, mais sous la direction de l'Esprit-Saint, nous devons aller partout et proclamer l'annonce salvifique de la mort et de la résurrection du Christ. Ces paroles qui terminent l'Évangile nous accompagne et nous réconforte. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Chers amis, le caractère historique, pourrions terminer cette méditation ainsi, le caractère historique du mystère de la résurrection et de l'ascension du Christ nous aide à reconnaître et à comprendre la situation transcendant de l'Église, qui n'est pas né et qui ne vit pas pour suppléer l'absence de son Seigneur disparu, mais qui trouve au contraire la raison de son être et de sa mission dans la présence permanente, bien qu'invisible, de Jésus, une présence agissant avec la puissance de son esprit. En d'autres termes, ou dit d'une autre manière encore, nous pourrions dire que l'Église n'exerce pas la fonction de préparer un retour de Jésus absent, mais au contraire, elle vit et l'œuvre pour en proclamer la présence glorieuse de manière historique et existentielle. Depuis le jour de l'Ascension, eh bien chaque communauté comme la nôtre, je l'espère, avance dans son itinéraire terrestre vers l'accomplissement des promesses du Messie, alimenté par la parole de Dieu et nourri par le corps et le sang du Seigneur, comme nous allons le faire maintenant. Telle est, frères et sœurs, la condition de l'Église que nous rappelle le Concile Vatican II, que je cite, alors qu'elle avance dans son pèlerinage à travers les persécutions du monde et les consolations de Dieu, annonçant la croix et la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Très bonne fête à tous. Amen.